Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. En cette soirée du 1er septembre, quand septembre rentre, je pense que c'est la rentrée, et la rentrée scolaire, et bien sûr aussi la rentrée sociale. Et nous, au niveau Taxi Maghreb, à cette occasion de cette rentrée sociale, on va lancer les débats qui nous concernent et bien sûr qui concernent la société québécoise dans laquelle on vit et dont on fait partie. Et ce soir, un des débats, je pense, qui mérite d'être traité ces jours-ci et depuis très longtemps, c'est la question des mosquées, la gestion des mosquées au sein de la communauté musulmane, la question des imams aussi, les imams qui des fois sont des porte-parole, qu'on soit d'accord ou non, mais qui sont invités par les médias pour parler au nom de la communauté musulmane et pour parler de ce sujet. Nous avons deux personnalités de la communauté musulmane, en commençant par Monsieur Saïd Al-Jaziri, qui est imam donc de la mosquée Al-Quds, mais qui est aussi président de l'association coranique de Montréal, qui gère entre autres la mosquée Al-Quds, une mosquée qu'on peut dire est une des plus grandes mosquées à Montréal. Elle est quand même récente, nouvelle par rapport à d'autres mosquées, mais on peut dire qu'elle s'est développée par ses activités depuis un certain moment. Il faut mentionner aussi que Monsieur Al-Jaziri, qui est très présent au sein des médias québécois, que ce soit ces derniers temps sur la question des accommodements raisonnables, mais aussi il a été aussi présent dans une, on peut dire, dans un débat intracommunautaire sur la question de la viande halal. Tout le monde se rappelle sa position qui a remis, on peut dire, cette question de sur la table du débat, la question de la viande halal, à travers sa création d'une association qui gère aujourd'hui certaines donc vendeurs de viande halal à Montréal. D'autre part, je reçois Monsieur Rachid Arafat. Rachid Arafat, homme, on peut dire, ressource au sein de la communauté musulmane, très engagé, une présence d'une trentaine d'années, plus que 30 années de présence au Québec, cadre au ministère du Transport, mais en même temps ancien président du Centre islamique du Québec à la ville de Québec, homme engagé au niveau du dialogue interreligieux, puisqu'il fait partie de la majorité des groupes de dialogue religieux, donc musulmans, chrétiens, musulmans, juifs, et aussi donc musulmans, chrétiens, juifs du Québec. Il faut mentionner aussi que M. Rachid Arafat a émis plusieurs donc mémoires sur la question du racisme, sur la question de la discrimination, sur d'autres sujets, sur la question d'immigration au niveau du débat, donc au niveau du Parlement québécois. Entre autres, M. Rachid Arafat est aussi membre de plusieurs conseils d'administration, de plusieurs organismes québécois, entre autres la Commission des droits de la personne.
La Ligue des droits et des libertés.
La Ligue des droits et des libertés, dont il siège comme membre. Et aussi, il est une personne ressource au niveau du ministère d'éducation du Québec sur la question essentiellement de la communauté musulmane. Donc, M. Saïd Al-Jaziri, bienvenue à notre émission. Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Et M. Rachid Arafat, bienvenue à l'émission aussi. Salam alaikum.
Wa alaikum salam. Wa rahmatullah.
Donc, aussi, il y aura d'autres invités qui sont vous. Chers auditeurs, chères auditrices, comme d'habitude, au 514-495-2597, 514-495-2597, vous allez participer avec nous, mais on va donner au début la parole à nos invités sur la question du jour, et plutôt sur les questions du jour, mais ça tourne autour de la question des mosquées, la question de la formation des imams, la question du rôle des imams qu'on conçoit en tant que communauté musulmane, surtout par rapport à notre présence ici au Québec. Et dans un deuxième temps, on va vous ouvrir donc les ondes à vous à travers le téléphone. On nous reste donc, on est 10h40, actuellement c'est 10h40, on va ouvrir le téléphone à partir de 11h du soir, donc soyez patients, mais pouvez téléphoner toujours au 514-495-2597 pour prendre votre place par rapport au téléphone. Je vais commencer par une première question pour essayer de mettre en contexte nos auditeurs. Comment, par rapport à vous bien sûr, comment vous concevez le rôle de l'imam, soit au niveau purement religieux, donc au niveau de la mosquée, mais surtout au niveau de la société? Et bien sûr, on parle dans un contexte d'une société comme celle du Québec, multiculturelle, où on peut dire que la communauté musulmane est une des minorités de cette communauté, de cette société. On va commencer avec M. Al-Jaziri ou la Saïd Arafat, plutôt Rachid Arafat.
Ok, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La question est très importante et une question vraiment que le débat est ouvert déjà au sein de la communauté musulmane et non musulmane, on va dire communauté ou bien société québécoise. Le rôle de l'imam, et tout le monde se pose cette question-là, c'est quoi le rôle de l'imam? Le rôle de l'imam, c'est premier travail de cet imam-là, c'est enseigner, éclairer la communauté musulmane sur sur les questions religieuses. C'est le premier point. Aussi, dans le même cadre, il guide les prières et il essaie d'éclaircir le chemin de l'islam pour la communauté musulmane. Ça, c'est le travail vraiment de base d'un imam. C'est un travail qu'on le trouve même dans les imams ou bien dans les mosquées à travers le monde musulman surtout. À l'Occident, il y a une exception. À l'Occident, les mosquées, c'est comme le cœur qui bat de la communauté. Et on le vit, c'est une réalité. De quelle manière ? On vit et on le sent que si un musulman a un problème, il se dirige vers une mosquée. S'il a le moindre chose, il se dirige à la mosquée. Il se marie à la mosquée. Et s'il est mort, il se dirige vers la mosquée pour le laver. S'il a une fête, il se dirige à la mosquée pour amener le couscous et le manger à la mosquée. Ça veut dire, quand il est heureux, il se dirige directement à la mosquée. Quand il est triste, à la mosquée. C'est comme à la mosquée, il trouve ce qu'il cherche. Alors, de cette manière-là, la mosquée, elle vient, c'est comme dans le cœur de la communauté.
Mais pour vous, est-ce que ce rôle, il est comme une situation particulière parce qu'on vit en Occident, ou est-ce que c'est le rôle que vous donnez d'un point de vue religieux à l'imam aussi, de jouer ce rôle très large au niveau social ?
En principe, l'islam, si on revient à la vie du prophète, l'islam était de cette manière-là. Le prophète de l'islam était l'imam. Et tout le monde, quand il a un problème, il revient à lui. Il éclaircit le chemin, il résout le problème. Il rentre dans les chicanes dans la famille. Il essaie de résoudre ces problèmes-là entre familles, tout ça. Alors c'était le rôle du prophète et c'était le rôle de l'islam pour vrai. Dans le monde musulman, ça a changé un peu. C'est resté l'imam qui reste juste dans la prière du vendredi, dans la prière des saintes prières, et il ne rentre pas ailleurs. Alors finalement, dans le monde occident, non. Aujourd'hui, ça, l'imam reprend sa place. Et c'est une place que c'est un imam que les gens lui font confiance, les gens parlent avec lui, les gens ils trouvent une sagesse dans cet imam-là. Alors, ils le confient leurs problèmes et ils le trouvent le plus proche d'eux parce qu'il n'a ni mère, ni père, ni rien ici. Alors, ils se dirigent où ? Vers cette mosquée-là. Alors, vers cet imam-là, alors, voilà.
Monsieur Rachid Rafa, donc votre point de vue par rapport à cette question du rôle de l'imam d'une façon conceptuelle et aussi d'une façon contextuelle, surtout quand on parle du Québec aujourd'hui.
Salam alaikum. Ma conception, je pense que nous vivons un grave problème en Occident dans la mesure où l'imam a pris une place considérable par rapport à ses prérogatives premières qui sont le culte, la direction du culte et ses prérogatives de guide spirituel. Et ce n'est pas tout le temps de la faute de l'imam. Là, il y a une convergence des prérogatives de l'imam avec les desiderata de la communauté qui font en sorte que tous les problèmes se retrouvent au niveau de l'imam, et l'imam accepte de les régler. Aurait-il compétent en matière sexuelle ? En matière de sexologie, est-il compétent en matière spirituelle ? Oui. Est-il compétent en matière médicale, en matière matrimoniale, est-il compétent pour faire de la médiation? Je ne le pense pas, parce que le savoir est éclaté. Maintenant, il y a des spécialités. Et je regrette que parfois des imams, au lieu de dire aux gens qui ont des problèmes, allez voir un sexologue, allez voir un psychologue, allez voir un psychiatre. Moi, j'ai vu des gens dans la détresse, pas psychique, dans la détresse psychiatrique, des gens qui avaient besoin de soins. Bon, on leur lisait des prières, etc. Moi, je veux bien. Mais ce n'est pas régler la question de la personne. On est confronté actuellement avec une montée des imams en Occident qui n'a rien à voir avec l'imam originel ou l'imam actuel dans le monde musulman. Il remplit un vide, c'est vrai. Parce que dans le monde musulman, vous n'avez pas que des imams, vous avez des ulamas, vous avez des associations, vous avez des universités, vous avez où vous renseigner. Mais ici, on veut faire de l'imam comme un monseigneur, comme un clergé, et souvent des imams jouent ce rôle. Alors il y a convergence d'intérêts entre ce que veut une communauté qui est assaillie par des problèmes, qu'elle refuse de résoudre de la manière la plus objective, et un imam qui va en faire de plus en plus et qui s'arroge une autorité en matière culturelle, je veux bien, en matière spirituelle, je veux bien, mais il ne peut pas soigner, il ne peut pas tout régler, il peut faire le médiateur, il peut faire le conciliateur, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il réfère les gens aux services sociaux, aux services de médecine. Moi, j'ai assisté à des choses absolument intolérables, des femmes battues, puis les gens sobrées, soyez patientes, au lieu d'appeler la police. C'est une obligation, selon la loi, quand il y a violence, d'appeler la police, de dire à la dame, allez voir la police. Non. On étouffe les choses et on croit régler les choses. À l'intérieur de la mosquée, Et ça, c'est une dérive pour moi.
Cheikh Djezzir, est-ce que par rapport à ce rôle, on peut dire éclaté, comme il a été présenté par M. Al-Jarafa, est-ce que vous pensez que les imams, est-ce que vous êtes assez formés par rapport à la diversité des problèmes? Bien sûr, peut-être qu'un imam peut être formé d'un point de vue religieux, mais comme ça a été mentionné, il y a des problèmes sociologiques, psychologiques des fois, psychiatriques, sexologiques. Est-ce que vous êtes formé pour pouvoir répondre à tout, à toutes ces questions?
Si on présente cette affaire-là de cette manière-là, c'est grave. Pourquoi ? Parce que on va essayer d'accuser les gens d'ignorance, que c'est pas le cas. Les gens qui se présentent dans les mosquées et posent des questions à des imams, c'est des gens bien instruits. Je vous cite un exemple. Dernièrement, on était contacté par le CLSC. La nutritiste, elle m'appelle, elle me dit: Monsieur, on a un problème. Une femme veut pas manger, elle doit manger le Ramadan parce que elle a un problème, elle a l'air, etc. Alors, elle fait appel à un imam pour que l'imam intervienne. En principe, ce n'est pas mon travail. En principe, comme il dit le monsieur, on dit: écoute bien, je ne suis pas un CLSC, moi, je ne suis pas un hôpital. Alors, mais elle fait référence à nous. Pourquoi? Parce que on peut diriger. Et il le dit. Une fois, il dit: on ne se dirige pas vers les imams. Ensuite, il dit: les imams doivent diriger. Et nous, notre travail, on doit diriger. Je suis d'accord. Un imam n'est pas spécialiste dans tous les domaines, c'est vrai, mais un imam peut diriger. Si une personne qui se présente, il a un problème, par exemple, pour visiter ou bien pour consulter un sociologue, c'est normal. Cette personne-là veut dire: visite un sociologue, un sexologue, je ne sais pas, un médecin. C'est normal. Mais deuxième chose, s'il se présente par exemple dans un cas où il y a une violence, mais c'est normal, il y a une loi qui gère le pays. Et cet imam-là, ce qu'on a fait appel, doit être instruit ici au Québec. Il doit connaître la culture des Québécois. Il doit connaître la culture du pays pour diriger les gens vers le bon chemin. Il ne va pas accepter la violence. Il ne va pas accepter que cette femme va être tabassée.
Et est-ce que les imams sont formés de cette façon-là aujourd'hui?
Aujourd'hui, ce qui existe, la réalité, les imams sont parachutés de tous les quatre coins du monde. Alors les imams, ils viennent ici, ils s'installent et ils prennent un vide qui existe. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est normal, c'est un avantage à la communauté musulmane et à la communauté québécoise qu'un imam doit connaître la réalité du Québec, et il doit, alors on doit les former ici. Si on les forme ici, on sort de cet amalgame et on aura des imams bien instruits, des imams qui connaissent la réalité, mais ils ne seront pas. Le problème, que un imam qui est dans sa mosquée, quelqu'un il vient frappe la porte chez lui, il ne peut pas lui dire: dégage chez toi, non. Et c'est vrai, il ne doit pas aussi l'induire en erreur. Il doit le diriger. S'il ne sait pas, il dit: je ne sais pas. Mais s'il y a une forte demande de ces imams-là, on ne peut pas fermer la porte. Alors, c'est un travail de bénévole.
Mais
de façon, on ne cherche pas, on ne court pas derrière.
Mais d'une façon très franche. Donc,
je m'excuse. Ouais. Et aujourd'hui, ça arrive même jusqu'aux médias. Aujourd'hui, les médias, ils ont vu que ça marche très bien si on invite des imams. Et ça marche très bien si on parle à des imams. Et des imams amènent des idées et amènent des solutions. C'est les médias aujourd'hui. Les médias, on va les accuser aussi d'ignorance. Non, on va les accuser aussi qu'ils profitent de la situation.
Mais sur cette question,
il y a un problème.
Je vais poser une question. Oui. Au fond, j'aurai deux questions. La première question, elle est à vous deux. Et je vais commencer avec M. Al-Jarafa pour répondre directement à ça. Comment on peut évaluer aujourd'hui la situation de la formation des imams par rapport aux défis que vous avez mentionnés?
Il n'y a aucune formation, je regrette. Et Al-Jazir, il l'a reconnu en tant qu'imam. Des gens sont autoproclamés. Ils viennent d'ailleurs d'une culture majoritairement musulmane. Ils arrivent ici avec un schéma de pensée d'ailleurs. Ils n'ont jamais été confrontés à notre situation unique dans l'histoire des musulmans et l'histoire de l'islam. Nous sommes dans une situation de minoritaire. Il nous faut un fiqh, namazouji. Il nous faut un nouveau droit pour fonctionner dans cette société. Des gens continuent à arriver d'eux-mêmes et s'imposent comme ils veulent, et d'autres communautés font venir encore. À Québec, il y a des gens ont fait venir récemment un jeune d'Égypte, unilingue, qui ne sait absolument rien de la complexité de la culture locale, ni de son histoire, ni de sa langue. Il ne sait absolument rien. Comment peut-il être un porte-parole? Comment peut-il comprendre nos problèmes légaux, nos problèmes psychologiques, nos problèmes sociaux? Comment peut-il comprendre le concept d'un commandement raisonnable? Moi, une fois dans une mosquée, j'ai été sidéré, ici à Montréal, même si je vis à Québec, un jeune Québécois de souche catholique venait de se convertir, puis voyait plein de gens, il citait 2 heures de l'après-midi, puis demande à l'imam: ces gens-là ne travaillent pas? L'imam lui a dit: mais il y a une loi au Canada qui donne le droit de s'absenter. Il n'y a aucune loi Ça, je l'ai entendu, Rasoumoubillah al-Azim. Yanni, on induit des gens en erreur. Ce pauvre Québécois de souche venant d'entrer en islam est entré. Et immédiatement après, on l'a mis sur une peau de banane. Par ignorance, parce que les gens croient connaître, et ils s'engagent dans des choses absolument incroyables. Le drame, même en Europe, où la communauté musulmane existe depuis au moins 2 siècles, des gouvernements vont obliger les communautés à avoir des imams formés sur place, des imams occidentaux, qui sont obligés de connaître la réalité locale. Les communautés, malgré 2 siècles de présence, ont été dans l'incapacité d'en former. Il a fallu que des lois en Belgique et en France forcent la dose. Ça n'a pas de sens. Et nous suivons absolument le même modèle. Nous sommes encore plus fragiles que nos frères européens. Nous sommes plus récents dans ce contexte nord-américain. Nous sommes dans un contexte d'islamophobie terrible. Mais on n'a rien compris. On continue. Il y a une responsabilité partagée entre les imams autoproclamés parachutés importés d'Orient, qui connaissent rien à notre réalité, et les communautés de gens pratiquants, parce qu'il faut, il y a une minorité de gens, de musulmans qui pratiquent, il ne faut pas se leurrer. Hein. Et il y a une convergence d'intérêts pour rester dans un ghetto.
Sur cette question de minorité, donc de gens qui pratiquent, et là je poserai la question d'une façon directe à Cheikh Jaziri, beaucoup de gens se posent par rapport à votre cas, mais je pense que aussi ça peut être valable pour d'autres personnes. Vous êtes une personne très médiatisée comme imam. Est-ce que vous, la responsabilité que vous assumez en parlant d'une façon directe ou indirecte au nom des musulmans, est-ce que vous pensez qu'en tant qu'imam vous avez le droit de le faire? Et beaucoup de gens le pense cette question. Dans votre cas, je peux vous le dire que ils disent que vous êtes trop médiatisé, vous passez trop au niveau des médias, vous développez un discours que vous avez assumé seul, mais en le faisant au nom de l'imam, non pas au nom de Jaziri qui réfléchit, parce qu'il y a des intellectuels qui passent, donc vous pouvez passer, mais en le faisant au nom de l'imam d'une communauté, vous imposez cet avis à toute la communauté. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
Moi, je réponds une réponse très 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 claire et simple. On laisse les gens libres un peu. Et pour construire notre communauté, on doit avoir des idées différentes et surtout donner la liberté d'expression, ce qu'on a souffert. Personne ne peut proclamer qu'il a la seule vérité. Personne. Et quand M. Jaziri parle, il parle, M. Jaziri. Et quand M. Jaziri a une idée, il a une idée. Et quand M. Jaziri est sorti dans la rue, les gens sont sortis dans la rue. Pas tout le monde. Il ne parle pas au nom de tout le monde. Mais au moins, il y a une idée différente. Et ces idées différentes-là, en se respectant, c'est ça notre personnalité. Mais si quelqu'un vient et dit hey, c'est quoi ces imams là qui parlent? Et pourquoi lui il parle? Et si lui il a parlé, toi qu'est-ce que t'as fait? Toi t'as juste critiqué. Lui il parle, il essaye d'amener un dialogue constructif, il essaye de dire aux Québécois c'est qui la communauté musulmane avec sa manière. Si d'autres personnes ils ont une autre manière, qu'il essaye de rentrer dans cet enjeu-là de la manière démocratique. Mais pas en disant, lui, qu'est-ce qu'il représente? Qui? Pourquoi il parle à mon nom? C'est pas ça. Alors, ça, c'est le point qui est très, très négatif. Nous, on aimerait bien, surtout notre islam et notre religion, nous l'enseigne. Ou bien, dis du bien, sinon, on se tait. Alors, on essaye de dire du bien. On n'a pas dit du mal. On essaye de dire du bien. Alors, on peut se tromper. On peut faire des erreurs. Mais malgré tout, je ne peux pas mentir, je vais dire que je suis l'imam de la mosquée Al-Quds. Je ne vais pas inventer ce titre-là. C'est un titre pour vrai. Si je ne le mérite pas, je vais l'enlever. Alors c'est un titre qui existe, c'est une réalité. Et en plus de ça, je ne me suis jamais dit que je suis l'imam ou pas imam. Mais c'est les médias qui présentent. Autre chose, les médias, ils ont trouvé un grand intérêt. Alors on est sorti aux gens. Il y a des gens qui te disent non, on ne doit pas parler, ou chaque fois il y a une situation critique, les musulmans ne doivent pas parler, on doit laisser le temps se calmer et après on va apparaître. Bon, mon point de vue, non. Mon point de vue, on doit être là, on doit parler, on doit s'exprimer, tout en respectant la communauté québécoise, tout en respectant la réalité québécoise. On n'est pas là pour frustrer les gens, non, c'est pas vrai. Mais on est là pour dire, on existe et on a une réalité. Et aujourd'hui, M. Jaziri, avec tous ses propos qu'il a tenus à travers ces années-là, a montré une chose très importante, que la communauté, que les minorités étrangères qui existent au Québec vivent une démocratie très difficile. La démocratie des étrangers ou des communautés ethniques qui sont minoritaires, elle est en danger. Et on l'a prouvé avec plein de preuves. Ça, c'est la moindre des choses. Alors, il y a un intérêt. Alors, moi, je crois que le Québec nous a ouvert la porte, il nous a donné une chance de vivre ici, alors qu'on ne soit pas hypocrite, qu'on dise ce qu'on a à dire, et si on a une autre idée contraire à ce qu'on a dit. Qui se présentent, les médias ils sont ouverts. Radio-Canada et TVA, tout le monde s'est ouvert. Alors on se présente, on dit, moi aussi j'ai une autre idée. Pas on dit, hey, laissez-le se taire, lui il parle plus. Non, laissez-le parler. Mais on peut contredire, on peut amener une autre idée.
Monsieur le Sérafort.
D'abord, une petite remarque sur les médias. Je suis tout à fait en désaccord avec le frère Jaziri quand il dit que les médias sont ouverts. Ce n'est pas vrai. C'est les médias qui imposent leur agenda. Et quand ils veulent voir un imam en particulier, ils ne voient que lui. La question qui nous préoccupe, de manière générale, c'est la représentativité de l'imam. L'imam représente qui ? Il représente quoi ? Moi, personnellement, en tant que musulman pratiquant et hajj et impliqué dans la communauté, je refuse d'être représenté que par des imams. Et j'accuse les imams, en toute fraternité, d'avoir failli à un devoir sacré. C'est d'avoir poussé, ils auraient dû et ils devront, d'après moi, inciter les communautés à s'organiser sur le plan associatif. Nous ne sommes pas que des musulmans pratiquants qui avons des problèmes de culte. Nous sommes des citoyens et nous devons nous exprimer comme citoyens d'abord. Il y a notre facette religieuse, il y a notre facette sociale, notre facette culturelle, notre facette économique. Tout ça est absent. On a réduit les musulmans, on les a confessionnalisés par rapport à toutes les autres communautés. Nous ne sommes que des pratiquants. On nous montre tout le temps, sais-je digne, puis on nous montre par en arrière, les fesses en l'air. Nous sommes réduits à ça. Et les imams jouent le jeu. Au lieu d'inciter les gens à s'organiser dans la société civile, quel est notre poids dans la société civile ? Il est nul. On peut nous insulter matin, midi et soir, et ce n'est pas vrai que toutes les minorités souffrent au Québec. Celles qui souffrent sont connues, parce qu'il y a une islamophobie qui est devenue d'une banalité déconcertante, et contre laquelle, qu'est-ce qu'on fait les imams contre ça ?
Mais je voudrais,
c'est ça le drame.
Vous avez mentionné un point très important, et je voudrais poser la question à Cheikh Desiri. Qu'est-ce qu'un imam, quand il parle dans un média, ou même quand il fait une action sociale ou politique ? Il représente qui ?
Sincèrement, les médias sont ouverts. Si on essaie de les contacter, ils ouvrent la porte. Et j'ai une expérience. Et moi, je n'ai pas commencé. J'ai commencé de zéro. Et j'ai appelé comme tout le monde. Et finalement, j'ai eu la porte ouverte. Alors, j'ai commencé pas Jaziri Saïd. J'ai commencé, personne ne me connaît. Et ça, la preuve que les portes sont ouvertes. Mais une chose très importante, qu'il faut dire ce que la communauté pense, ou bien ce que un membre ou un groupe de communauté pense, même si c'est une minorité, parce que même la communauté elle est minoritaire.
Non, mais en tant qu'imam,
en tant qu'imam, jamais. Non, je vais vous dire une chose. En tant qu'imam, personne ne peut dire que je représente toute la communauté. Personne.
Mais vous représentez
mais,
qui
mais pour, par le pourcentage, vous savez très très bien aujourd'hui, de nos jours, qu'un imam, il a des adhérents. Et il a beaucoup plus d'adhérents qu'une personne qui est normale. C'est une réalité.
Quand vous parlez d'adhérents, est-ce que sur un principe d'association ?
Je peux vous dire, par exemple, moi, dans la mosquée Al-Quds, je reçois par semaine minimum 1000 personnes.
Donc,
et deuxième
vous,
chose,
pour
je
vous,
peux vous dire,
non,
je vais
non,
continuer.
Non, non, juste pour,
okay.
Pour vous, ceux qui viennent à la mosquée okay. Al-Quds pour faire la prière, ils adhèrent au fait que vous êtes un représentant de cette partie.
Les gens qui prient derrière moi, je peux vous dire une chose. Les gens qui prient derrière une personne, généralement, ils font confiance et ils l'écoutent. Généralement, pas la majorité. Ok. Sinon, on va dire en général. Mais ces gens-là, on n'oublie pas que chaque fois que je fais une action, par exemple, je parle dans les médias, il y a des gens qui appellent, ils sont très contents. Et merci. Il y a des gens qui disent, tu présentes qui, tu parles au nom de qui. Ça, c'est des différences qui existent, toujours, ça va exister. Mais le principe qu'on doit aller à l'avance. Mais l'imam, je suis d'accord, l'imam, il ne peut pas dire que je parle au nom de la communauté, je ne suis pas la porte-parole de toute la communauté, et personne ne peut le prétendre, c'est sûr. Mais au moins, quand il parle, laisse-le parler.
Mais
moi, j'ai une chose très importante, que si cette personne-là parle, Bon, il parle. Personne ne lui a parlé. Depuis qu'il parle, bon, j'ai même pas répondu ce qu'il disait. Il est libre, il dit ce qu'il veut. Mais moi, je parle. Ah, attention, l'imam, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas son travail de contredire un imam. C'est pas son travail de mettre un imam à défi. Parce qu'il gagne rien. Il gagnera rien comme ça. Un imam, il a son respect. Qu'il le veut, qu'il le veut pas. Il a un grand respect. Il porte la parole de Dieu, c'est normal. Il a le Coran dans son cœur. Il connaît mieux que les autres dans la religion musulmane. Alors, c'est une personne qui doit avoir un respect. C'est dans l'islam comme ça. On doit le respecter. Et Dieu l'a dit dans le Coran. Alors ce respect-là, il est là. Cet imam-là doit pas être, c'est pas le Dieu de tout le monde, c'est vrai. Il doit dire que je parle à mon nom et je parle en tant qu'imam pour que les gens savent est-ce que c'est un imam ou c'est autre chose. C'est une fonction.
Nous sommes
alors,
la seule communauté.
Là. On n'est pas là pour dire toi tu parleras pas. Tout le monde peut parler.
Nous sommes la seule communauté dont les seuls porte-paroles sont des imams.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous, vous parlez combien de fois, et moi je suis un porte-parole, et vous avez parlé.
J'ai jamais dit que j'étais porte-parole.
Vous avez parlé au nom du président de l'Islamic Center du Québec. C'est quoi ça?
J'ai pas parlé, j'ai dit que je suis un ancien président.
Vous étiez un
président. Je n'ai aucune prétention. Je dis que la communauté juive ne s'exprime pas par ses imams.
Non, c'est pas vrai. Elle s'exprime par leur rabbin.
Laissez-moi terminer.
Laissez-moi terminer. Laissez-le terminer, je vais vous redonner la parole.
Okay.
C'est moi terminé. Il y a le Congrès juif canadien, il y a plein d'associations, chacun à sa place.
Monsieur Turcotte parle au nom des chrétiens.
Est-ce que je peux terminer?
Non, il faut juste laisser terminer. Si vous
je l'aide pas.
J'ai pas besoin d'aide. Okay. Non, ce paternalisme-là, okay. je n'en mange pas. Il y a un vide énorme dans les communautés parce que les communautés ne font pas leur travail. Et de l'autre côté, les imams veulent en faire beaucoup. Alors, on se retrouve réduit à être des êtres confessionnalisés. On ne veut plus nous écouter comme citoyens, comme travailleurs, comme intervenants sociaux, comme membres de la société civile. Nous sommes des musulmans pratiquants. Et musulmans pratiquants, hein, donc qui rentrent dans ce fantasme en Occident où baigne une islamophobie dont nous payons un prix énorme. Moi, je dis que autant les imams sont responsables que les communautés parce qu'elles n'ont pas réussi à se prendre en charge. Quels sont nos services sociaux? Quelles sont nos associations? Quelles sont nos associations sociales, culturelles, économiques, politiques? Nous n'en avons pas. Alors, bien sûr, ça laisse un champ libre qui est occupé par des gens qui n'ont ni formation, qui connaissent absolument pas les ressorts de cette société. Et plus grave que ça, même les politiciens s'en aperçoivent, et les médias. Quand il y a eu des attentats à Londres et à Madrid, le Premier ministre du Canada, M. Martin, a convoqué des imams à Toronto. Mais ils ne me représentent pas, moi, ces gens-là. Et ils les écoutent. Alors, nous sommes dans une situation extrêmement critique.
Donc, vous êtes bien à l'écoute, là, M. Diesel, on va revenir tout à l'heure. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. On vous rappelle qu'à partir de maintenant, le micro est donné aux auditeurs et auditrices. Et je vous rappelle notre numéro de téléphone qui est le 514-495-2597. 514-495-2597. On prend une pause publicitaire et on revient à vos appels.
سمعتي برنامج الوفاء الجديد سفر فلاير تواصل للخطوط الملكية المغربية
طبعا أمي الأسرة كلها حسب واحد مشترك هذا رائع
مع تواصل متعة السفر مع الخطوط الملكية المغربية تزدها متعة أخرى غير اشتركنا في تواصل فزنا بسرعة تذكرة سفر مجانية
مع سفر فلاير تواصل برنامج الوفاء الجديد للخطوط الملكية المغربية سواء سافرتم معا أو على انفراد تجمعون الأموال في حساب مشترك للأسرة وتفوزون بسرعة أكبر بتذاكر طائرة مجانية تأخروا انخرطوا في سفر فلاير تواصل واستفيدوا من هذا الامتياز الرائع الخطوط الملكية المغربية أجنحة المغرب.
Vous êtes de retour à Taxi Maghreb et on va prendre le premier appel. Le téléphone explose avec les appels. On va commencer avec Belkacem. Bonsoir Belkacem.
Allô.
Oui Belkacem.
Oui salut l'ami.
واش راك Belkacem لاباس؟
لاباس. Je vous remercie pour cette émission et je remercie tous les auditeurs qui ont pensé à moi quand j'étais en vacances. Donc c'est que j'étais en vacances. Là je suis revenu des vacances et je suis en plein un auditeur qui écoute l'émission.
Bokassem, s'il te plaît, spécialement Lyon, on a beaucoup d'auditeurs. On trouve le direct, M. Gerbiaïch. Désolé, Bokassem.
On est au sujet. Merci. Donc, pour les imams, ce que j'ai remarqué, moi, en tant que musulman et Québécois, c'est qu'il y a beaucoup d'imams qui ont des idéologies. Ils représentent leur idéologie. Il faillit à leur mission. Et par exemple, je veux parler de quand il y a l'Aïd, jamais on est d'accord en tant que musulmans, en tant que communauté, pour faire un seul jour ou pour commencer le mois de Ramadan. Est-ce que, une question aux imams, est-ce que vous n'avez pas failli à votre mission, vous avez accompli votre mission envers l'islam? On voit par exemple à Toronto où il y a eu des jeunes soupçonnés de terrorisme. Est-ce que les imams ont joué leur jeu pour inciter les musulmans à la tolérance, à ne pas tuer, une vie sans justice et tout? Donc il y a une faillison au niveau mondial des imams dans nos sociétés d'origine.
Merci Belkacem, la question est passée. Donc on va prendre un autre auditeur sur la 3. Bonsoir. Allô? Allô, allô? Allô, allô? Sinon, sur la 5, Farouk, bonsoir. Allô, Farouk, sur la 5. Aziz, sur la 4, bonsoir, Aziz.
Tout le monde, moi, je voudrais faire un commentaire par rapport au questionnement même. Je questionne le questionnement sur la présence des imams comme porte-parole, parce que concrètement, quand on essaie d'observer un peu la prise de parole musulmane dans les médias de façon générale, il y a effectivement l'imam Jazeri qui prend la parole et puis il la prend, honnêtement on peut dire qu'il la prend bien puisqu'il respecte la prise de parole des autres. Je ne vois pas une présence des imams tellement intensive pour que ça justifie les questionnements ou les généralités que proclame notre frère Rachid Rafa. Et d'autant plus que le questionnement peut s'inverser, se poser par rapport à par exemple à Rachid Rafa, que vous avez présenté comme une personne ressource de la communauté musulmane qui est présente dans les comités au niveau du ministère de l'Éducation sur la table Maghreb. Au nom de quoi ces personnes parlent? Donc, moi, c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que ce questionnement me paraît bizarre. Les imams, en tant qu'imams, du moment que la communauté est interpellée dans sa dimension religieuse, confessionnelle, donc par rapport au fait qu'elle est musulmane, on questionne les pratiques religieuses, c'est tout à fait normal que certains imams ou au moins un seul imam comme c'est Al-Jazeri prennent la peine de prendre la parole. Je conteste cette façon de poser les questions qui risque de laisser entendre qu'on voudrait au nom d'un questionnement qui pourrait plaire peut-être au sein de la communauté à une certaine minorité ou aux médias eux-mêmes d'aller dans cette tendance de vouloir primer un imam de son droit de prendre la parole.
Merci beaucoup, Aziz. Il y a d'autres auditeurs. C'est bon, Kemult?
Donc c'est ça, je voudrais qu'il y ait un respect par rapport à la prise de parole des imams,
très bien.
Parce que je ne sens pas qu'elle est déplacée, d'autant plus qu'ils le disent clairement que ce n'est pas nécessairement une prise de parole au nom de tous les musulmans.
Merci beaucoup Aziz pour ton intervention. Désolé, bien. Aziz, je rappelle ton numéro de téléphone qui est le 514-495-2597, 495-2597, Farouk sur la 3, bonsoir Farouk. Oui, bonsoir.
Moi, j'aimerais poser une question à M. Al-Jazeri.
Oui, tu vas d'accord.
Si c'est vraiment, c'est-à-dire il prétend qu'il a un savoir dans la religion, moi, j'aimerais bien, c'est-à-dire la dernière fois quand il était à TVA, son français, c'était un massacre. J'aimerais bien qu'il parle au moins en arabe, il leur dise, ramenez-moi un traducteur, il traduit ce que je dis. Si vraiment, il a un savoir.
Merci, Farouk.
Il n'a pas de savoir.
Merci beaucoup, Farouk, pour votre intervention. Saïd, sur la 2, bonsoir, Saïd. Oui.
Je voudrais juste intervenir sur la question de l'imam ici. La question, c'est que la faute, elle incombe à toute la communauté musulmane. Là, on n'a pas de vrais imams. Un imam, c'est l'équivalent d'un clergé, c'est un enseignant, c'est un guide, c'est un iridé, alim en termes. Donc, normalement, c'est une référence pour tout le monde. Mais le problème, malheureusement, c'est que la communauté, elle ne veut pas prendre les vrais ulama ou les vrais imams en charge. C'est ça la question.
Merci beaucoup, Saïd. Donc, on va donner la parole à nos invités, mais vous pouvez toujours appeler puisque vous avez donc les lignes qui seront ouvertes jusqu'à, on va prendre jusqu'à 23h25. Mais donc, je demanderai à M. Saïd Ezeli, il y a des questions qui ont été posées. Vous pouvez répondre donc dans l'ordre ou dans le désordre. Mais à la question, donc.
Moi, je suis très content déjà des interventions. Il y a des gens qui parlent négatif de moi, mais au moins, il parle, il me connaît très bien, il m'a suivi. Et ça, ça prouve qu'il a bien compris ce que je dis. C'est pour ça qu'il essaye de critiquer ce que j'ai dit. Bon, si le français il est faible, pas faible, bon, ou je parle arabe ou autre, déjà, je parle trois langues, français, anglais, arabe. Déjà, alhamdoulilah, c'est excellent. J'ai des idées, j'essaie de les montrer, c'est tout. Le point très important que tout le monde dit, il y a un vide à Montréal ou il y a un vide dans la communauté musulmane. S'il y a ce vide-là dans la communauté musulmane, et les imams essayent d'en faire beaucoup, ou plus qu'ils peuvent. Faites un travail, vous, et comme ça, vous allez empêcher les imams de faire ça.
Mais est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat? Que les imams font plus qu'ils devraient faire, en première étape. Est-ce que vous êtes d'accord?
Si quelqu'un fait du bénévolat, et fait beaucoup de bénévolat, il fait jamais trop.
Non, c'est qu'en termes de couverture, en termes de capacité. Non. Un être humain, il a une formation. Donc vous avez une formation.
Oui.
Parmi le constat qui est posé, c'est qu'on dit que les imams s'ingèrent, sans le vouloir peut-être, parce que la situation leur est imposée, s'ingèrent sur des domaines où ils n'ont pas de compétences. C'est pas parce qu'ils sont incompétents. Okay. Ils sont compétents dans plusieurs domaines, mais vu la demande de la communauté, ils vont s'ingérer dans des domaines où ils n'ont pas de compétences. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat?
Je crois pas. C'est très faux. Si un imam va donner des idées et va essayer de parler aux médias avec des idées qu'il a, avec une idéologie qu'il veut répandre, alors à cet instant-là, il a son droit. On ne peut pas le priver de son droit de parler.
Non, mais
c'est ça le problème. Parce
mais
que
pas
j'ai
spécialement.
Vu, là,
non,
c'est moi, je vais vous expliquer.
Oui, non, mais pas spécialement là, prendre la parole.
Imam, je veux vous donner un exemple. J'ai jamais vu un imam qui est en train de faire, par exemple, d'aller je ne sais pas, faire une chirurgie sur un malade. Ici, ce n'est pas un médecin. Il va pas faire, c'est pas son travail. Alors j'ai jamais vu un imam, il va faire un journaliste qui est pas journaliste. Mais si on le demande pour parler, il parle. Pourquoi les chrétiens, ils font pas obstacle à M. Turcotte quand il parle, il réagit dans les médias? Pourquoi ils le respectent? Pourquoi les juifs, j'ai fait plein de débats avec les juifs, la majorité c'est des rabbins. Le grand débat que j'ai fait, c'est avec le grand rabbin juif qui a fait ce débat-là. Ils le respectent, personne n'a proclamé ces choses-là. Attendez, seulement quand un imam parle, et quand un imam essaye de donner des idées dans les médias, on dit, pourquoi il parle? Ça, c'est une manière de priver la parole. Je vais continuer. Le jour où le prophète de l'islam était insulté, pourquoi ces gens-là qui parlent dans les coins ou dans les trous, ils n'ont pas dit quelque chose? C'est les imams qui ont une forte parole, et j'étais là et j'ai dit, on n'insulte pas le prophète. Et on est surtout dans la rue pour le dire. Et les gens qui maintenant aujourd'hui qui disent je suis ressource de la communauté musulmane, qui est ressource de la communauté musulmane? Alors même moi je vais poser cette question-là. Mais moi non, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire si lui il est ressource, si lui il est président d'une association, si lui il est représentant d'un groupe, qu'il représente, qu'il parle, qu'il bâtit. Il ne peut pas bâtir tout seul lui, jamais. Monsieur Jaziri ne peut pas bâtir tout seul, jamais. On doit bâtir ensemble. Alors laissez tout le monde participer dans ce dialogue qui est très beau. Je ne sais pas de couper les paroles, écrivez les paroles.
Il faut répondre aux questions qui ont été posées. Moi, j'ai pris note. Il y en a une qui concerne Saïd Jaziri, l'échec des imams, même dans quelque chose d'aussi banal que faire le ramadan le même jour ou l'Aïd. Je laisse le soin de répondre. Moi, j'ai été interpellé par le deuxième intervenant qui disait au nom de quoi? Mais moi, au nom de quoi? C'est mon engagement. C'est mon engagement, moi. Moi, je me suis engagé dans la défense des droits de l'homme, dans la défense des femmes, dans le dialogue interreligieux. Je voudrais savoir si les imams en font pareil. Moi, c'est pas pour rien que j'ai été élu au conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés. C'est mon travail personnel qui a fait en sorte qu'on me choisit, qu'on me demande conseil. Je suis pas tombé du ciel, j'ai pas été parachuté. Et mes écrits et mon curriculum vitae, puis Lamine peut en témoigner, sont là pour le prouver. Moi, je ne parle au nom de personne. Je ne parle qu'en mon nom personnel et je suis encore plus libre parce que je ne suis plus président d'association musulmane du tout. Alors, dire que moi, je n'empêche personne de parler. Je dis que les médias et les gouvernements donnent les paroles à des imams et à certains imams. C'est tout. Et ça, c'est contestable.
parce que ça ne vient pas de vide, parce que ces imams-là ont un pouvoir.
Il faut répondre à la question qui vous a été posée, l'échec lamentable des imams face à quelque chose d'aussi simple que Ramadan et l'Aïd.
Et je vais la reformuler d'une façon très concrète.
Très bien.
Dans quelques jours, dans 12, 10 jours, on va inchallah instaqbalou le mois du Ramadan. Les gens n'arrivent pas à comprendre une chose, que les imams à Montréal n'arrivent pas à être d'accord sur le même jour.
C'est pas qu'à Montréal.
On ne demande pas que tout le Canada soit d'accord sur le mois du Ramadan.
Exactement.
On ne demande pas que tout le monde musulmans soient d'accord. Mais comment expliquer qu'à Montréal, bien que je comprends qu'il y a des raisons objectives qui peuvent, dépendamment du pays d'origine, tout ça, mais comment expliquer que ces imams, on peut dire qu'il y a un échec sur cette question? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un échec? On n'arrive pas encore, juste à Montréal, à avoir le même jour du mois du Ramadan.
Il faut savoir qu'une chose, dans les pays musulmans, il y a ce problème-là. Dans un seul village, dans les pays musulmans, il y a ce problème-là. Un, il suit l'Arabie Saoudite, l'autre, il suit l'Égypte, l'autre, il va suivre son pays. Ce problème-là, il est ancien. On sort en France, le même problème. Ici à Montréal, le même problème. Mais si à Montréal, il y a eu un grand progrès, quand il y a un problème, on essaie de le résoudre. Et si chacun, comme on va dire, chacun il parle à son nom, l'imam ne parle au nom de personne. Alors imaginez, demain il y a un problème dans la communauté musulmane, le premier ministre il doit parler à un de toute la communauté musulmane pour qu'il comprenne les musulmans qu'est-ce qu'ils veulent. Ça c'est vraiment, on va arriver jamais. Mais il y a un problème aujourd'hui, et ce problème-là se dirige vers les imams. Ok, les imams ils se sont réunis, ils ont fait un énorme progrès dans la question de Ramadan. Dernièrement, il y a eu minimum deux rassemblements d'imams, et on a traité ce problème-là de Ramadan, et on espère cette année que tous les imams vont avoir la même idée et le même Ramadan. Ce qu'on espère, il y a un grand progrès, il y a eu plein de réunions, mais il ne faut pas oublier qu'on a un problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a les paraboles. Les paraboles, ce n'est pas tout le monde qui va dans les mosquées, ce n'est pas tout le monde, comme il dit le monsieur, qui croit les imams ou ils écoutent les imams. Chacun est imam de soi-même. Il y a plein d'imams à travers Internet. Alors aujourd'hui, qui va suivre qui? Alors il y a un problème d'Internet, il y a un problème de parabole. Il y a un problème aussi de culture. Je suis du Pakistan, l'autre je suis du Algérien, l'autre Tunisien, l'autre Marocain. Alors chacun il va suivre son pays. Alors tout ce problème-là, les imams, ils essaient de faire face. Et ils font des progrès, ils font des réunions, ils font des rassemblements. Mais on fait de nos mieux. Si nous, on n'arrive pas, ok, que les autres associations, ou que les autres qui ne veulent pas, les imams qui sont là, qu'ils amènent des solutions. Ce que je dois dire ici, très important, que si une personne fait un effort pour résoudre un problème, une situation, au moins qu'il fait cet effort-là, on n'essaie pas de le détruire. Sinon, fais mieux que ça. Nous, on est ouverts. On aimerait bien que ces gens-là, ils se réunissent un jour, ils trouvent une solution pour Ramadan ou autre.
Je vais commencer mon 33e Ramadan dans ce pays, et ce n'est pas vrai qu'il y a des progrès. À Québec, il m'a fallu 20 ans d'efforts personnels. D'efforts personnels, faire comprendre aux gens. Dans la même famille, il y avait l'homme et la femme qui ne suivaient pas le même jour. C'est Moubillah al-Azim.
C'est ça.
Eh bien, il m'a fallu 20 ans de bagarre pour imposer un truc très simple. Et c'est la seule solution. Parce qu'avant, on était branchés sur l'ISNA. On attendait jusqu'à 5 heures du matin. On ne savait pas si on allait. C'est complètement ridicule. Si on allait rentrer, on rentrait au Ramadan comme on rentre dans une épicerie. Alors que ça prend une préparation psychique, spirituelle et physique. Alors j'ai réussi à imposer un truc très simple. Et j'ai été combattu par des gens qui m'ont insulté. Parce qu'on n'arrive pas à se parler. J'ai dit, dès qu'on entend qu'un pays musulman, quel qu'il soit, commence, on commence avec lui. On m'a traîné dans la boue, finalement, c'est la solution. Et ici, on a un tas d'imams, ils font des réunions.
Mais le problème, aujourd'hui, il y a des écoles, différentes pensées. L'imam chef, il dit, si un pays, mais l'imam Malik, il ne dit pas ça. Alors,
On va revenir aux auditeurs, on rappelle notre numéro de téléphone qui est le 514-495-2597, 514-495-2597, on va prendre France sur la 3. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
J'adore votre émission.
Merci beaucoup.
J'adore votre façon d'animer. Excellent.
Merci.
Je salue les deux imams. D'ailleurs,
je ne suis pas imam. Dieu merci.
Je salue les deux invités parce que je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils apportent. Et surtout, je pense qu'ils apportent une autre vision du monde arabe. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Je veux passer vite. Je veux dire deux choses. La première des choses, c'est vrai qu'il y a une islamophobie, je le crois. Et la preuve qu'il y a une islamophobie, si vous vous souvenez, en Angleterre, il y a à peine de cela 3-4 mois, il y avait eu cette espèce de Russe du KGB qui a transporté du matériel radioactif dans un avion. Vous vous souvenez de tout
ça?
Oui,
bien sûr, bien sûr.
Eh bien, on n'en a pas fait grand cas tant que ça. L'Angleterre est montée un peu, je dirais, afin de monter de lait. Et puis ça a été tout, et l'Angleterre continue à faire du business avec les Russes, et les télévisions en ont parlé comme si c'était un détail tout à fait normal, rien. Alors que si ça aurait été des musulmans, on en aurait fait toute une histoire. On aurait écouté, on aurait, même s'il faut, on aurait bloqué les compagnies d'avions de ce pays-là.
Ouais.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Ouais, ouais, ouais.
Donc il y a une islamophobie. Maintenant, je pense que la meilleure façon de la combattre, l'islamophobie, c'est par des émissions comme vous faites. Et c'est aussi au fait de faire que les Arabes s'approprient le lieu public, s'approprient les ondes. Et par exemple, les Juifs ont gagné. Pourquoi les Juifs ont gagné? Les Juifs ont gagné parce que les Juifs n'ont pas peur dans les médias. Les Juifs, par exemple, si vous écoutez, il y a une radio israélienne en ce moment, qui une radio juive qui diffuse. Eh bien, elle diffuse en français, en anglais et en hébreu. Alors que la radio arabe, que de temps en temps j'écoute la musique, à date, ce que je vois, c'est qu'elle diffuse qu'en arabe. Donc, pour gagner l'opinion publique, il faut pouvoir s'exprimer dans la langue et il faut occuper l'espace public. Si on ne l'occupe pas, d'autres personnes vont s'occuper.
Merci. Merci beaucoup pour votre intervention.
Alors, lâchez pas, j'aime beaucoup les deux invités. Ne lâchez pas, mais vous faites du très bon travail.
Merci beaucoup, Chefir, sur la une. Bonsoir, Chefir.
Bonsoir. J'écoute avec intérêt votre émission. Là, c'est...
Merci.
À quand un islam autochtone québécois, enfin, je québécois, mais à quand un islam d'ici, avec un environnement d'ici, avec des gens d'ici qui vivent les mêmes contre-coups de la société, les mêmes effets, à quand une seule voix de l'islam, à quand, et pourtant il y a un seul Dieu, nous avons un seul prophète, à quand un seul islam?
Merci, Chafiq. Je pense qu'on va... J'ai pas encore le nom des auditeurs ou auditrices. Je vais prendre la 2. Bonsoir. Allô? La 4. Ok, je pense qu'il reste plus d'auditeurs ou auditrices. Ce qu'on va faire, je rappelle notre numéro de téléphone qui est le 514-495-2597. Il y a Monsieur Khadraoui sur la 4. Bonsoir, Monsieur Khadraoui. Allô, allô.
Allô.
Oui, Monsieur Khadraoui.
Bonsoir, Lamine.
Hadiriba.
Ouais.
Ça va bien.
Et vous êtes, on est toujours présent en esprit et en cœur. Hein.
Merci beaucoup, certain.
Merci. Vous faites un excellent travail.
Merci beaucoup.
Je voulais juste intervenir brièvement pour vous dire deux petites choses.
Oui.
Je pense que ce genre de débat est nécessaire. Mais il peut partir sur toutes sortes de choses et on peut perdre 4 heures à parler et arriver à rien. Donc je veux résumer la chose. Il me semble, d'après moi, qu'il y a deux plateformes, deux choses. Hein?
Oui.
Allô?
Oui, vous êtes sur les ondes. Oui.
La première des choses, c'est que les musulmans en général, ils n'ont pas fait un certain travail. Et ce travail, qui est très important, quand ils sortent à l'étranger, devient très visible. Ce travail, c'est un travail de concertation, de travail de dialogue. Par exemple, les imams qui sont ici en exil, je veux dire, ou immigrés, etc., au Canada, ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas fait un certain travail, ils l'emmènent sur l'antenne. Ce travail doit être fait avant. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, je comprends.
C'est-à-dire qu'il faut arriver à des choses très claires, très précises et nommer des gens compétents pour parler au niveau de l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est niveau politique. C'est-à-dire, les Arabes et les musulmans, nous vivons en ce moment un moment très difficile, un temps très difficile, et les médias, qui sont très rusés, ils choisissent les gens qui les arrangent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils choisissent des gens qui n'ont pas d'expérience, ils choisissent des gens qui ne sont pas habiles linguistiquement, etc., etc. Et ils jouent avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Allô?
Oui, on vous écoute. Hein.
Donc, le travail qui doit se faire dans les coulisses, si je peux m'exprimer ainsi, il faut que les imams, les musulmans, les communautés ici qui arrivent ici et qui veulent représenter la religion, il faut qu'ils fassent leur travail.
Monsieur Khadraoui, je vais vous poser une question, mais je voudrais quand même avoir une réponse. Je m'excuse par oui ou non, juste parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent. Est-ce que vous, quand vous écoutez un imam qui intervient au niveau des médias, et qui est interpellé parce qu'il y a un problème qui concerne la communauté, musulmane, est-ce que vous êtes à l'aise qu'un imam intervienne à ce niveau-là?
Je veux dire oui et non. Je veux dire, il n'y a pas d'autres gens. Il faut bien que quelqu'un parle. Les gens se lèvent spontanément en général. Vous voyez ce que je veux dire?
Okay.
Il n'y a pas une concertation comme la communauté juive, par exemple. Ils nomment quelqu'un de précis pour dire des choses précises. Okay. Et ça a des effets précis. Nous, on n'a pas ça.
Merci beaucoup, M. Khadraoui, pour votre intervention.
Bonsoir.
Merci beaucoup. Donc, je prends Akram sur la 2. Bonsoir, Akram.
Moi, je voudrais intervenir juste sur un point précis, notamment, on a l'impression que on est en train de dénigrer le travail des imams ou de dire qu'ils prennent beaucoup de place. Le constat que je fais peut-être une analogie avec un médecin généraliste dans une campagne où il y a une carence, il n'y a pas beaucoup de médecins, donc c'est le seul qui intervient. À un moment donné, après quelques années, on se développe, la campagne s'agrandit, il y a beaucoup plus de gens. Et à ce moment-là, on commence à se poser des questions. Pourquoi ils traitent telle ou telle maladie qui demande des spécialistes? À ce moment-là, effectivement, on commence à chercher des spécialistes parce qu'on a grandi, parce qu'on a, le nombre est plus important. C'est la même chose, je pense, qu'ici à Montréal ou comme toute région qui on est restant ici. Vous l'avez dit vous-même. Et si les imams ont été, les imams n'ont pas été frappés aux portes pour dire que voilà, si vous avez des problèmes, venez nous voir ou qu'est-ce que vous avez comme problème. Les gens, les musulmans vont les voir. Et ça, c'est parce qu'il y a une carence. Il y a un manque énorme. Ils n'arrivent pas à trouver des gens où aller, à quelle porte aller frapper. Et encore plus, il y a quelque chose de très spécifique aux imams, c'est qu'ils ont ou ils bénéficient d'une grande crédibilité. Ça, c'est très important. Les associations actuellement musulmanes ici, à Montréal ou au Québec, n'ont pas encore cette crédibilité-là. Et c'est pour ça que les musulmans vont aller là où ils ont confiance. Et c'est pour ça que je dis, il faut être honnête avec ces imams qui ont pris cette place où il y avait un vide énorme, et les remercier pour le travail énorme et avec beaucoup d'efforts qu'ils ont effectué jusqu'à présent, et dire que bon, peut-être que maintenant, il faut que les associations en parallèle travaillent, font des choses sur le plan social, civique, citoyen, et il y aura effectivement, comme c'est des spécialités, il y aura effectivement des musulmans, ils vont savoir par eux-mêmes, d'autant plus qu'ici, notamment à Montréal, où il y a une grande communauté musulmane, j'allais dire universitaire, assez instruite, qui vont savoir quand il y a un tel ou tel problème, parce qu'il y a telle ou telle association spécialisée, ils vont la voir plutôt que... Mais elle aura, j'espère, gagné de la crédibilité.
Merci beaucoup, Akram. Abdounour sur la 3, bonsoir Abdounour. Allô, oui, Abdounour.
Bonsoir tout le monde.
Oui,
je vais
bonsoir.
Je ne vais pas trop tarder parce que je sais que vous avez beaucoup de monde.
Oui, oui, tfaddal, Abdounour.
Donc, je vais être bref. Moi, en premier lieu, j'aimerais parler justement de Saïd Jaziri. Vu qu'il trouve un vide, comme il le dit, et qu'il l'occupe. Donc, pour lui, il donne des idées. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on a des idées, mais la façon de parler qu'il a, personnellement, je suis musulman, mais quand je l'entends parler, ça m'agresse. Moi, j'aimerais ça justement que, quand il parle d'une façon un petit peu plus reposée, un petit peu plus sereine, au moins pour faire passer le message. Parce que personnellement, je me dis, un ayah déjà, je le comprends. Et c'est agressant, cette façon de parler. Et on a affaire à des gens, justement, qui n'ont pas la même dynamique de raisonnement qu'on avait en Algérie ou qu'on avait dans le Maroc ou dans les pays musulmans. On devrait changer cette façon de raisonner, cette façon de discuter, cette façon de se comporter. C'est pas de la même façon qu'on avait dans les pays musulmans qui va fonctionner ici. Donc, en deuxième lieu, c'est le côté rôle de l'imam ici. Personnellement, j'ai l'impression, quand je rentre dans des mosquées, que j'ai affaire à des philosophies différentes. Il y a un imam qui dit telle chose et je suis sûr et certain que je vais demander la même chose à un autre imam et je suis sûr et certain qu'il va me dire autre chose. Où est-ce qu'elle est la référence ici? Même M. Jaziri le dit lui-même, il dit qu'il y a différents avis. Donc quelque part, personnellement, je parle à mon propre avis, on se sent perdu. Alors je comprends très bien que quand on a affaire à d'autres gens, ils se disent tout simplement qu'ils se comprennent d'abord entre eux autres, avant d'abord de discuter avec nous autres. C'est tout ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup Abdounour. On va prendre, je pense, le dernier auditeur avant de redonner la parole à nos invités. Karim, bonsoir. Allô, oui.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir Karim.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir donc à vos invités. Oui. Bonsoir chers auditeurs. Moi, c'est juste un petit commentaire et puis une question. Mon commentaire, c'est par rapport, j'allais dire, faites gaffe et garez à les diversions. La diversion que jouent certains médias québécois pour emboutiller ou bien pour tout simplement mettre dans une boîte d'allumettes la communauté comme telle, de la renfermer et donc pour qu'elle ne puisse pas vraiment étaler sa capacité, sa façon d'agir, pour qu'elle puisse rayonner, qu'on puisse se présenter comme une communauté respectable et respectée. Donc je fais très attention donc aux médias qui, eux, travaillent sur la question. Ils ne viennent pas comme ça par hasard. Ils ont déjà préparé le terrain et ils savent à qui s'adresser. Et quand ils voient en face d'eux quelqu'un extrêmement brillant, intelligent, connaisseur, compétent, quelque part, ils prennent le recul. J'ai l'impression que lorsqu'ils veulent me ridiculiser, ils invitent eux-mêmes leurs propres invités. Et nous, on n'est pas des représentants de la communauté, loin d'être le cas. On s'est donc représenté. Et comme ça s'étale, ça se propage un peu partout dans les médias, donc c'est tout le monde qui regarde les émissions, on reste un peu bouche bée de la façon comment les gens nous représentaient. Donc moi, c'est un point extrêmement important, c'est de faire gaffe à la diversion qui est en train de se jouer pour nous embouteiller principalement. Ça, c'est un point.
Ma question, la question maintenant, quelle est, ouais.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour réconcilier, remettre sur rail toute cette communauté, puisqu'on vit au Québec, notre province d'accueil, pour permettre une certaine cohésion, pour que les gens puissent vivre en paix, parce que c'est ce qu'on recherche ici, et faire ressortir notre façon de faire de la, positivement. Et je termine là-dessus.
Merci beaucoup, Karim. Il y a Texaha pour l'intervention. On va prendre une dernière auditrice, donc on va la prendre... je rappelle donc que vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb avec un grand M. Naïma sur la 2, bonsoir.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Monsieur Rafa, salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Merci de vous être déplacé le Québec. C'est un engagement habituel, hein, donc c'est pas nouveau de votre part. Salam alaikum, monsieur Désiré.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
J'ai une question pour vous.
Oui.
Si ce soir, après cette émission, s'il y a des gens qui vont peut-être vous appeler ou venir vous voir pour vous, c'est-à-dire pour vous proposer de l'aide, bon, je dis de l'aide entre parenthèses, c'est-à-dire des analyses, notamment sur le sujet des accommodements raisonnables, puisque c'est un sujet d'actualité, est-ce que vous allez prendre note si jamais vous serez saisi par les médias pour parler au nom de la communauté musulmane? Et j'aimerais vous dire barakallahu fik, parce qu'au moins vous avez le courage de vous présenter devant les médias pour exprimer, si vous voulez, la frustration de la communauté musulmane. Barakallahu fik.
Merci beaucoup. Là, je pense qu'on va prendre une pause publicitaire, peut-être avec une petite pause musicale, et on va revenir avec nos invités. C'est sûr que la dernière partie, ça serait les solutions, surtout sur la question de la formation des imams, sur le rôle que doivent, bien sûr, en répondant aux questions des auditeurs et auditrices. Mais on aura une demi-heure pour ça, donc on prend la pause publicitaire et la pause musicale.
Tu es au courant du nouveau programme de fidélité Safar Flyer Tawassul de Royal Air Maroc?
Mais comment? Rassembler les miles de toute la famille dans un même compte?
C'est une première! Tu peux le dire, j'apprécie de plus en plus de voyager avec Royal Air Maroc. Dès notre adhésion à Tawassul, j'ai obtenu rapidement mon billet d'avion gratuit.
Avec Safar Flyer Tawassul, le nouveau programme de fidélité de Royal Air Maroc, que vous preniez l'avion ensemble ou séparément, vous cumulez les miles sur un compte commun à toute la famille et accédez plus rapidement au billet d'avion gratuit. Alors n'hésitez pas, adhérez à Safar Flyer Tawassul et profitez de cet avantage exceptionnel. Royal Air Maroc, les ailes du Maroc.
المليح تسبني بضربته ورفقة المعاني اسمي حول قيث ظلم بالسم والنظرة في المليح اجمت على عيان المليح تسبني بضربته ورفقة المعاني اسمي حول قيث ظلم بالسم والنظرة في المليح اجمت على عيان الهوى ملهوي سقيد وسقاني قالي انت احلم نعسل وصفا وانت الغالي بما اكسب السلطان قلت له يا مليح الملح ويلا دهواني انك فاهم صادق وافي احنين القلب فيه الخير والاحسان المليح كسبني بضرب دورقة المعاني اسمي حولتي تغرم بالسم والنظرات المليح تمتع العيان المليح كسبني بضرب دورقة المعاني اسمي حولتي تغرم بالسم والنظرات المليح تمتع العيان
سبني درافتو رقت المعاني واحد يتقياس Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb et ce soir, comme on l'a bien annoncé depuis 10h30, on parle des mosquées, des imams à Montréal et on a l'honneur de recevoir M. Saïd Jazeri, donc un imam, comme ça a été mentionné, assez médiatisé, présent sur la scène publique au Québec, sur toutes les questions concernant la communauté musulmane et aussi M. Rachid Darafa, un homme très engagé au sein de la communauté depuis une trentaine d'années qui nous vient du Québec. On le remercie d'avoir accepté cette invitation et de se déplacer, comme d'habitude à chaque fois qu'on l'invite, à Montréal. Donc, en aventurier, on peut dire, les 200 km Montréal-Québec ont été faits plusieurs fois.
250. Aller et 250 retour.
Donc, on y va directement par rapport. On a eu beaucoup de réactions, je pense que vous avez noté. Je vous demande donc de répondre dans l'ordre des ordres par rapport à toutes les questions qui ont été posées. Il y a des gens qui ont dit que les imams, quand même, jouent un rôle, il ne faut pas les juger, même s'ils font des erreurs, ils ont rempli un vide. Maintenant, il faut trouver des solutions pour que chacun prenne son rôle. Il y a d'autres qui ont donc parlé de la question de la représentativité des imams. Il y a d'autres qui ont parlé que les médias manipulent les personnes qui interviennent, que ce soit imam ou autre, de façon à faire leur affaire, à créer l'événement pour vendre encore plus. Vos réactions par rapport à ça, M. Saïd Jazeri.
Ok. Alors, moi, ma réaction, la première personne qui est intervenue, c'est un Québécois qui a dit que c'est bien que la communauté musulmane s'exprime et on doit s'exprimer pour dire c'est qui nous ici. Et quand je vois un imam se présenter, par exemple, dans les accommodements raisonnables, il était là pour dire que, attention, ne touchez pas au voile de la femme musulmane. Ça fait pas mal. Il a bien expliqué cette chose-là. Ça suffit de dire que la femme musulmane, elle a choisi le Québec pour vivre libre et pour garder son voile. Ça ne demande pas une science, je ne sais pas quoi. Alors, ça demande un courage, oui. Parce qu'il y a des pressions après, oui. Mais ça demande un courage de dire, attention, c'est notre culture. C'est dans notre religion, on ne veut pas perdre. Et deuxième chose, on veut dire aux gens, arrêtez ces préjugés-là. Alors aujourd'hui, nous, on ne doit pas se chicaner entre nous, on ne doit pas faire des problèmes entre nous. Si un imam est sorti pour parler, ok, s'il a dit une moitié de paroles, que quelqu'un d'autre prend la parole aussi. Et en plus de ça, tout le monde me connaît très bien. Dans le vendredi, je crie, dans tout le monde, je dis, si vous avez la capacité de sortir dans le média, sortez. Et il y a plein de monde qui ont la capacité. Il y a des gens qui ont fait des études de politique, il y a des gens qui ont fait dans les médias, il y a des gens qui sont journalistes, il y a des gens qui ont des écrivains qui parlent aussi. Mais c'est pas eux aussi seulement qui vont prendre la parole. Notre problème, que dire que, attention, les seuls qui parlent dans la communauté, qu'ils parlent plus. Et comme ça, c'est fini, ça s'arrête le problème. Non, c'est pas vrai.
Pour reprendre une question qui a été posée à vous directement, oui. Mais il faut pas prendre personnel. Je pense que c'est valable pour tout le monde.
C'est
même.
Normal. C'est normal. Ouais.
Vous savez, des fois, on est dans des sociétés. Oui. Où la spécialisation est arrivée à un niveau très poussé.
C'est vrai. C'est
partout.
C'est vrai.
Un porte-parole qui intervient au niveau des médias doit suivre des formations.
Exactement.
La façon de s'exprimer est très importante, les visuels est très important. Bon, un des auditeurs avait posé la question de votre façon peut-être de s'exprimer, qui des fois aussi culturelle, que tout le monde, on est peut-être plus émotif que les Occidentaux. Mais est-ce que vous pensez pas que les gens qui interviennent, les gens des fois ne sont pas dérangés par le Jazeri en tant que tel, mais des fois ils sont dérangés par la non-préparation de le Jazeri ou d'autres personnes qui peut être imam ou non même qui des fois intervient au niveau des médias.
Mais le problème, on ne laisse pas inconnu cette personne-là qui va parler, qui est là. Vous parlez que c'est comme il y a une personne X, qu'elle est prête, que tout le monde, elle a enlevé son droit de parole, qui parle
c'est pas
le pauvre.
Non, le problème n'est
mais
pas
aujourd'hui,
là.
M. Jazeri a parlé. Et monsieur a parlé combien de fois dans les médias aussi? Et il parle, il dit ce qu'il a à dire. Et tout le monde a dit ce qu'il a dit. Pourquoi on ne critique pas le monsieur, on ne critique critique M. Jaziri. Vous savez pourquoi? Parce que le message de M. Jaziri arrive. Et parce que le message de M. Jaziri est différent. Et parce que le message de M. Jaziri est plein de courage. Alors, quand on a parlé, on l'a dit. Et une chose que c'est très important, il n'y a pas que l'imam Jaziri Saïd qui a parlé à Montréal. On arrête de dire ça. L'imam Niaoui a parlé.
Oui.
Il parle très bien. Et d'autres imams, ils ont parlé. Et plein d'autres imams, ils ont parlé. Mais aujourd'hui, quand M. Jaziri parle, non, ça doit s'arrêter là. Non, ça c'est pas. Et deuxième chose, quand je parle, comme on a dit, j'ai jamais parlé au nom de la communauté musulmane, je parle comme imam Jaziri Saïd.
De la mosquée Al-Quds.
De la mosquée Al-Quds.
Monsieur Hachir,
c'est ma liberté d'expression. Si je ne trouve pas mes libertés d'expression ici au Québec, je sors. C'est France. Pas aujourd'hui des musulmans qui vont nous priver notre droit de parole. C'est grave si on arrivera à ce point-là. Aujourd'hui, le journaliste québécois me donne le droit de m'exprimer. Et je
il ne faut pas que d'autres vous les enlèvent. Monsieur Rachid Rafah, une réaction par rapport aux interventions.
Je ne comprends pas que des gens comme France et d'autres, avec tout respect, disent prenez votre place, allez vous exprimer dans les médias. Les médias contrôlent le jeu. Je regrette infiniment, moi, à Québec, depuis que je suis là, on vient nous voir quand il y a une bombe n'importe où. On est même venu me voir, parce que personne dans la communauté ne voulait en parler, pour avoir la réaction des musulmans face à la maladie d'Ariel Sharon. J'ai dit aux journalistes, vous voulez que je vous dise bien fait pour sa gueule, Monsieur Sharon, qui crève comme un chien? Eh bien non. En tant qu'ennemi politique et militant depuis 33 ans, ce que peu de musulmans font d'ailleurs à Montréal, de la cause palestinienne, je condamne cet individu, son comportement. Mais en tant qu'être humain, c'est un être humain, il a le souffle de Dieu. Et je le pense.
Vous voyez,
alors,
lui,
je termine. Alors, prendre sa place,
Non.
On m'a pas ouvert la porte.
Mais vous avez
pas. On m'a pas ouvert la porte. On est venu me voir sur Sharon. On n'est pas venu me voir sur l'accommodement raisonnable que je maîtrise en tant que juriste. J'ai des publications là-dessus. On veut pas m'entendre. Alors qu'un imam a été consulté par la commission scolaire Marguerite Bourgeois il y a quelques années sur la musique. Il a dit oui, accommodé. Quelques années après, il a dit non. Alors moi, quand on me dit occuper l'espace public, ça revient à quoi?
Parce qu'il appelle pas lui.
Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît.
Jamais dire c'est moi le meilleur, appelez-moi et n'appelez pas l'autre.
Mais laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler.
C'est une grave erreur de faire ça.
Juste, je vais vous redonner la parole. Laissez-le juste terminer.
Non, quand on dit
je suis le meilleur. Appelez-moi. S'il m'appelle pas, moi je suis.
Monsieur Jaziri, s'il vous plaît, respectez le droit de parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît, respectez.
Mais laissez-moi parler.
Votre capacité.
Vous ignorez tout de la
respectez le droit de parole. Vous aurez...
Regardez, moi j'ignore tout ce qui est d'accommodement raisonnable.
Est-ce que je peux parler ou je m'en vais?
Non.
Je peux parler? Je n'ai pas droit à la parole ici, je m'en vais.
Non,
c'est un manque de respect inadmissible.
Oui,
alors quand on dit occuper l'espace public, ça revient à quoi? Ça revient à l'absence de responsabilité individuelle de chaque musulman. On veut faire des imams, des clergés. Un clergé. Dieu a refusé qu'on ait un clergé, un intermédiaire. On veut en faire un clergé. La place de l'imam dans la religion musulmane est connue et très réglementée. On veut en faire, et c'est les communautés, elles veulent en faire un clergé. Comme dans la religion catholique, on les consultait surtout sur les relations sexuelles, sur n'importe quoi. Alors, je reviens à la relation directe et personnelle entre le Créateur et la créature. On a oublié ça. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux. Fahoumou Kothro sommes très nombreux. Nous avons un poids nul sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique. On peut nous insulter du matin au soir. Qui se lève pour écrire contre un média? Alors, et la comparaison avec la communauté juive, moi je commence à en avoir assez. Nous ne faisons pas le poids. Et parfois nous méritons le sort qu'on a parce que nous sommes faibles et on continue à cultiver cette faiblesse et cette médiocrité. Puis on s'en remet aux imams. Puis on fait ceci, puis on fait cela. Puis on s'en remet à Dieu. Dieu interviendra, Inch'Allah, quand on se sera repris en main. Tant que la responsabilité personnelle, qui est la base de la responsabilité collective, n'est pas là, on méritera notre sort et l'islamophobie a de bons jours devant elle.
Mais moi, ce que je dis, il a parlé, je vais pas.
Non, bien sûr. Mais prenez une minute pour répondre, après je vais redire.
Aujourd'hui, la communauté musulmane, elle est morte, comme il dit, elle a rien, elle est nulle dans tous les côtés, dans tous les plans. Ok.
Non, je n'ai pas dit ça.
Non.
Vous avez dit dans le
plan. Non, j'ai pas dit ça.
Ok. Si la communauté musulmane a des problèmes aujourd'hui.
Elle n'est pas encore née, c'est pas qu'elle est morte.
Ok. Aujourd'hui, la communauté musulmane a des problèmes. Ok. faites des solutions, amenez des solutions.
Excellent.
On n'est pas contre.
Excellent point, monsieur Diaziri, parce qu'il nous reste 15 minutes.
Suggérez quelque chose.
Non, monsieur Diaziri, il nous reste 15 minutes. Est-ce que je voulais qu'on termine cette rencontre pour qu'on soit efficace, parce que monsieur Khadraoui avait mentionné que c'est un sujet qui peut durer des heures et des heures, mais c'est important de trouver des pistes. On va essayer au moins pendant les 12 minutes qui nous restent, d'après vous, c'est quoi les pistes de solution? Si vous constatez qu'aujourd'hui, donc, il y a un problème au niveau de la formation des imams, au niveau de la communication entre les mosquées, comment cette communauté pourra être bien représentée? Comment cette communauté, que chacun prend ses responsabilités selon ses compétences et qu'il n'y ait pas un dépassement? Monsieur Diaziri, votre point de vue sur ça?
Le problème, on ne respecte pas les compétences des autres. Chacun il regarde ses compétences à lui, il va crier juste pour lui. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et le jour où il n'appelle pas lui, c'est son problème personnel, j'étais pas là. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, que telle personne X qui s'est présentée, qui a parlé, il n'a pas fait tout ce qu'il doit faire. Ok, une autre personne prend le relais. Et c'est comme ça qu'on peut bâtir. Mais si on va rester dans la critique, si on va rester seulement à s'insulter, si on reste sans respecter le don de Dieu qui a donné à chacune personne, on n'arrivera jamais. Monsieur Jaziri, il n'est pas bien, il est noir, il est négatif, ok. Mais il a un petit point positif sur tous ces points-là. Ce point positif-là, on doit le respecter. On doit le respecter pour y arriver. Sinon, on n'arrivera jamais. Mais si toujours on va critiquer, rester négatif, on n'arrivera jamais. Alors aujourd'hui, moi je vous respecte, vous avez fait un grand travail. Lui aussi, il fait un grand travail, l'autre il fait un grand travail. On peut être complémentaire, ça marche, mais pas chaque fois que quelqu'un il fait un petit effort, on essaye de le bloquer. Si M. Jaziri par exemple a parlé au commandement de mon réservoir, s'il y a eu des erreurs, on essaye de les rectifier, mais au moins on encourage le petit bien qu'il a fait, parce qu'il a fait bénévolement, il a fait gratuitement, il a fait de bonne foi. Toutes ces choses-là, ce n'est pas des points positifs. Al Jazair al-Hassan, il est l'Hassan. Mais si on s'insulte, ça ne donne rien. Aujourd'hui, la communauté québécoise, ce qui est non-musulmane aujourd'hui, qui nous regarde, elle essaie de nous comprendre. Si, pour nous s'exprimer, quelqu'un va venir, va dire attention, lui, il est nul. Ça sortira à notre imam. Oubliez les imams, ok. Aucun imam va sortir. Ce monsieur va sortir, va parler. Il représente qui? C'est qui lui? Personne ne le connaît. Si un imam qui est très bien connu médiatique, qui parle et tout le monde dit et le rejette, alors une autre personne qui n'est pas reconnue du tout, c'est pas que tout le monde va le rejeter. Qu'est-ce qu'on doit chercher aujourd'hui? On va chercher que chaque personne ait une porte-parole de soi-même, c'est le désordre total. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait avec ce qu'on a comme maladie dans la communauté et on essaie de résoudre doucement, pas à pas. Pas. Je termine là-dessus,
un petit point.
Aujourd'hui, par exemple, dans le point d'accommodement raisonnable,
c'est la question que j'allais vous poser. Okay. Monsieur Diaziri, une question vous a été posée, je viens de me rappeler d'elle, c'est que on sait très bien qu'il y a une commission qui est mise en place.
Okay.
Peut-être qu'on va vous contacter, soit au niveau des médias.
Okay.
Est-ce que vous vous sentez prêt aujourd'hui? Vous maîtrisez très bien la question de l'accommodement pour vous permettre, avec la responsabilité en tant qu'imam, d'aller parler de ce sujet? Ou est-ce que si on vous contacte, vous allez vous référer à des ressources au sein de la communauté qui ont démontré leurs compétences sur le sujet, en particulier parce qu'ils sont spécialistes ou autres?
Vous savez très bien, l'accommodement raisonnable aujourd'hui, ça tourne autour du voile. Le voile, c'est la spécialité de l'imam parce qu'il connaît les sources, il connaît les preuves, il connaît tout ça. Et ça, c'est un point de vue. Deuxième point de vue, il y a des autres gens qui te disent on en est spécialiste dans le domaine social. L'autre, il te dit je suis spécialiste dans un autre domaine. Alors tout le monde peut parler. Alors on ne va pas dire que M. Jaziri va parler, mais on va tout dire, très important, que tout le monde peut parler. Et chacun qui parle de nous, on le respecte, on lui donne un petit respect.
Monsieur Ajafa, les pistes de solution.
Moi, je reviens à la responsabilité personnelle de chaque musulman et de chaque musulman. Il n'y a rien d'autre à faire. Si chacun ne se sent pas responsable de lui-même au sein d'une communauté et qu'il s'y implique totalement, c'est quand même incroyable que nous n'avons pas de professeur d'université, président d'association musulmane. Moi, une fois, à Québec, avec un ami, on est allé, chauffeur de taxi, tu discutes avec un gouvernement, c'est un chauffeur taxi parce qu'il n'a pas trouvé de travail. Mais j'aurais préféré que ce soit un prof de médecine. Notre élite est loin de nous. Et les musulmans pratiquants eux-mêmes se limitent au culte. Et moi, je ne comprends pas que les gens puissent vivre en ghetto et cultiver la victimisation de l'islamophobie, l'islamophobie est une réalité, mais la victimisation est autre chose, et vivre en ghetto en disant « Yakarhoun, moi je regrette, je ne suis pas venu ici pour être aimé. » Il faut qu'on s'organise. Et on ne peut pas s'organiser si chaque individu ne se sent pas responsable de lui-même et qui n'assume pas sa responsabilité au sein du communauté. C'est à ce moment-là que la communauté deviendra crédible, respectable et respectée. Pourquoi elle n'est pas respectée ? Parce que ses membres sont, ne se sentent pas concernés. Ils attendent une solution divine, mais il n'y en a pas. Allah subhanahu wa dit, aidez-vous, je vais vous aider.
Il y a une question qu'on a évacuée dans le débat, parce qu'il y a plusieurs questions qui sont posées, mais je voudrais qu'on profite des 10 dernières minutes pour revenir. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, les imams sont incompétents dans leur rôle. C'est que la situation de la société, de la communauté musulmane, leur impose un certain type de tâches, d'autres, des tâches qui sont purement religieuses, d'autres qui sont sociales, même politiques, parce que ils prennent des positions. Et des gens pensent qu'ils ne sont pas bien préparés. Il y a un problème de formation, que ce soit au niveau des fois religieux ou que ce soit au niveau donc, du contexte québécois. Je pose la question aux deux. Est-ce que vous confirmez ce constat? Si c'est le cas, c'est quoi la solution d'après vous? Et à quel niveau, par exemple, le gouvernement québécois doit intervenir pour résoudre ce problème-là, s'il doit intervenir, bien sûr?
Moi, je crois que c'est normal qu'il y a plein d'imams et il y a des imams bien formés comme imams. Il y a d'autres imams qui sont moins formés. Je ne vais pas dire que mal formés, moins formés. Et si on essaye d'attribuer à cette formation d'imams dans tous les domaines qui, que ça demande, c'est très bien, c'est quelque chose de très très bien. On a fait appel, déjà j'ai fait appel et j'étais parmi les premiers à Montréal qui a fait appel à la formation des imams qui sont nés ici, qui sont de réalité ici, et ça, ça demande aussi une intervention du gouvernement. Intervention du gouvernement comme quoi il peut venir avec les subventions, il peut vraiment donner un envie, un encouragement dans ce sens-là, et les imams vont dire oui, ils ne vont pas dire non. Les imams, ils acceptent.
Une question
ça.
Comme ça, je disais, juste pour
c'est
avoir...
extrêmement grave. Attends, de laisser le gouvernement nous diriger. Nous devons nous organiser nous-mêmes, former nous-mêmes nos imams, des gens nés ici, des occidentaux, des sociologues par exemple, qui ont fait des études islamiques, qui parlent les trois langues. Oui, mais moi, je n'attendrai pas que le gouvernement m'impose quoi que ce soit. Je refuse toute subvention.
C'est un bon point de vue.
La question des langues, c'est une question générale. Oui. Est-ce que vous admettez, M. Djazeli, qu'un imam ne parle qu'arabe? Est-ce qu'un imam peut être imam au Québec aujourd'hui s'il parle qu'arabe, d'après vous?
Si un imam qui parle juste arabe, il aura une grande handicap. C'est sûr.
Mais il peut être imam. Vous pensez,
un imam
il n'est pas capable de lire le journal de Montréal, il n'est pas capable de comprendre.
Il va être limité dans ses fonctions. Il va être très limité.
Et religieusement, c'est admis qu'il soit
imam.
Non,
dans la religion, je parle aussi. Parce que un imam doit, comme j'ai expliqué, c'est quoi un imam? Il va faire un prêche le vendredi. C'est quoi le vendredi? Il va parler des problèmes de la communauté musulmane, de la réalité qu'il vit, commenter à travers les textes religieux. Mais si lui, il est déconnecté du monde parce qu'il n'a pas la langue de la réalité, mais c'est normal, il aura une grande handicap. Et nous, on est contre ça. Mais si on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on doit amener une solution. On doit essayer de donner des cours, comme il dit monsieur, ou la communauté, si la communauté va vers ce sens-là. Sinon, il y aura des subventions si le gouvernement accepte déjà.
La même question que j'avais posée sur le constat des gens qui pensent que les imams sont mal formés ou moins formés. Est-ce que vous confirmez ça?
Je pense absolument. Vous... Okay. Écoutez, même il y a des discours choquants.
C'est quoi?
Moi, j'en ai assez dans les mosquées d'entendre « Hanafi bled al-kufr ». C'est absolument horrible. La solution, c'est que on sélectionne des jeunes ici, des jeunes hommes et des jeunes femmes qu'on forme sur le plan spirituel après qu'ils aient eu une formation ici, des gens qui parlent les trois langues, et qu'on en fasse des imams. Et on ne peut pas faire un imam comme ça. Il vient d'ailleurs, il s'impose. Il faut que chaque communauté s'organise. Il y a un cahier de charge, il y a un concours, puis ce soit des gens qui ne soient pas limités au culte. Il faut que ce soit des gens qui puissent être en harmonie avec la société ambiante, qui puissent discuter, qui puissent maîtriser les concepts.
Monsieur Darachid Rabat, vous avez utilisé beaucoup le mot parachuté imposé, mais moi je vais vous poser une question directe sur ce sujet.
Oui.
On prend le cas de Monsieur l'imam Djazeri.
Oui.
M. l'imam Djazeri est venu, il a battu, on peut dire...
Il est venu de lui-même.
Non, il est venu de lui-même.
Mais il y a des gens qui font venir à Québec, il y a un jeune qui est arrivé.
Non, mais dans son cas, je vais vous poser une question directe, parce que beaucoup de gens disent que pourquoi ils sont imposés, mais en réalité, si je prends son cas, il n'a pas imposé aux gens pour donner des dons pour construire la mosquée Al-Quds.
Il comble un vide.
Non, mais d'une façon directe, les gens qui ont donné de l'argent pour construire la mosquée Al-Quds, ils l'ont élu d'une façon indirecte à être un imam. Il y a une certaine responsabilité de la communauté à... Parce que les gens ont donné... C'est pas lui qui leur a dit. Il n'y avait pas la mosquée Al-Quds quand
il est venu. Au départ, j'ai dit qu'il y avait malheureusement une connivence objective entre l'irresponsabilité des communautés parce qu'elles ne sont pas assez mûres Nous sommes pas ici depuis très longtemps, depuis quelques décennies, et les imams qui veulent combler tous les vides. Moi, je ne mets pas uniquement la responsabilité sur les imams, ils comblent un vide. Mais j'en veux énormément aux communautés qui ne sont pas, il n'existe pas de communauté musulmane aujourd'hui. Elle est divisée sur le plan linguistique, sur le plan idéologique, sur le plan spirituel, sur le plan national. C'est absolument odieux. Nous avons 50 lieux de culte qui sont pas unis autour de Dieu, ce n'est pas vrai.
Merci beaucoup, Monsieur Rachid Rafa. Merci beaucoup, comme je disais. Je vais vous donner une minute pour le mot de la fin, parce qu'il nous reste à peu près, bien sûr, notre ami Monsieur Michel Bolivar se prépare pour l'émission haïtienne. Donc, pour la communauté haïtienne, soyez patients. Tambour battant va arriver dans quelques instants. Mais donc, je donnerai la parole à nos deux invités pour clore l'émission. Un mot de la fin.
J'ai tout dit, moi.
Ok, Monsieur Jazil, un mot de la fin.
Alors, moi, je dis que on doit se respecter. Si quelqu'un a une parole pour s'exprimer, qui s'exprime dans le respect de tout le monde, sans prédire qu'il représente toute la communauté, alors on essaie de le redire. Tout le monde essaie de bâtir d'une manière complémentaire et qu'on se respecte. Et la parole est ouverte à tout le monde. Et si la porte est fermée à quelques gens, qu'ils essayent, qu'ils persistent, ils arriveront à parler, ils arriveront à donner leur idée, leur point de vue. Pour Dieu, l'élève, fils abîlélève, et Dieu va, inshallah, changer notre bonne situation, inshallah.
Monsieur Saïd Jaziri, merci beaucoup. Donc, c'était monsieur l'imam Jaziri, qui est imam de la mosquée Al-Quds, président de l'association coranique de Montréal. Donc, comme j'avais mentionné, une personne très présente au niveau du débat, c'est essentiellement au niveau des médias sur la question, sur toutes les questions qui concernent la communauté musulmane. Avec vous aussi, qui était donc comme invité, monsieur Rachid Rafa, cadre au niveau du ministère de transport, personne de ressources.
Professionnel, pas cadre.
Ok, mais au niveau de la communauté, essentiellement très impliqué au niveau du dialogue interreligieux et aussi au niveau de comme étant une personne ressource au niveau de plusieurs institutions québécoises et canadiennes. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est la fin de votre émission Taxi Maghreb. On va vous voir dans 2 semaines. Merci beaucoup à Kader à la technique, Kader Al-Jiraoua, bien sûr notre site, le site de la communauté maghrébine ici, et merci aussi à Wahid au téléphone. Du marathon, je pense, pendant 30 minutes. Merci beaucoup à Wahid. Merci à vous, auditrices et auditeurs qui nous ont contactés. Merci aussi à vous, auditrices et auditeurs qui nous ont suivis jusqu'à minuit. On vous dit d'un et on va vous voir donc dans 2 semaines l'émission Montréal à Baisse pour samedi prochain. Et dans l'autre samedi, ce serait Taxi Maghreb. Ah.